Ouvrez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans À Notre Regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Et si ce que nous pensions savoir du monde n'était qu'une illusion? Si certaines vérités se cachaient derrière le voile de l'inexplicable? Ce soir encore, nous allons ensemble défier les certitudes et explorer les frontières de l'inconnu. Bienvenue dans Un Autre Regard, l'émission de Radio G Angers qui ouvre votre esprit au mystère qui nous entoure. Pour cette 12e émission, nous avons préparé un programme aussi troublant que captivant, où science, croyances et phénomènes inexpliqués se croisent et s'affrontent. Au fil de cette émission, nous plongerons dans les pouvoirs du pardon, un concept universel qui dépasse les frontières de la spiritualité. Peut-il réellement guérir les blessures les plus profondes? Son énergie aurait-elle un impact sur notre santé, voire notre destin? Mythe ou réalité, nous tenterons d'y voir un peu plus clair. Puis, nous lèverons le voile sur les mystérieux Men in Black. Depuis des décennies, ces hommes en costume sombre sont associés aux apparitions d'OVNI et aux témoignages d'expériences paranormales. Qui sont-ils donc vraiment? Agents d'une organisation secrète, créatures d'un autre monde ou d'une autre dimension, ou simples légendes urbaines nourries par la peur de l'inconnu? Enfin, nous nous aventurerons aux confins de la conscience avec les expériences de mort imminente, EMI, lumières éclatantes, sensations de paix, visions d'êtres chers disparus, ou simple lumière au fond d'un tunnel, ou alors au contraire visions apocalyptiques dignes de l'enfer. Ces récits intriguent autant qu'ils questionnent. S'agit-il d'hallucinations produites par notre cerveau en souffrance, ou un véritable aperçu de l'au-delà? Trois thèmes fascinants, trois énigmes, qui nous rappellent que le monde recèle encore bien des mystères. Alors, êtes-vous prêt à voir un autre regard sur l'inexplicable? Mais avant de nous plonger dans les Men in Black et les expériences aux frontières de la mort, intéressons-nous à un pouvoir souvent sous-estimé et pourtant capable de bouleverser les vies, le pardon. On le dit libérateur, guérisseur, capable d'apaiser les blessures les plus profondes. Alors de la sagesse ancestrale aux découvertes des neurosciences, nous allons explorer ensemble ce phénomène mystérieux entre psychologie, spiritualité et peut-être même un brin de magie. Alors le pardon est-il forcément un acte simple ou une clé vers une transformation profonde? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors le pardon, c'est un mot simple, mais qui porte en lui une charge émotionnelle immense. Il peut être un baume pour l'âme, une profonde libération, mais aussi un fardeau lorsqu'il semble impossible à accorder. Alors depuis des siècles, philosophes, religieux, psychologues et scientifiques tentent d'en percer les mystères. Le pardon est-il une nécessité, un choix ou une illusion? Nous le savons tous, pardonner n'est pas facile. Cela demande du courage, de la remise en question et parfois même un véritable combat intérieur. Mais lorsque nous y parvenons, les effets peuvent être extraordinaires. Réduction du stress, amélioration de la santé, libération émotionnelle, voire transformation profonde de notre existence. Dans cette première partie, nous allons explorer son rôle dans l'histoire et les grandes traditions, ses effets bien sûr sur notre psychologie et notre corps, son pouvoir de transformation et enfin ses limites. Alors est-ce qu'on peut vraiment tout pardonner? Et si oui, comment? Pardon bien sûr est une notion ancienne qui est présente dans toutes les civilisations. Alors que ce soit dans les religions, la philosophie ou simplement les traditions populaires, il est souvent vu comme une vertu essentielle à l'équilibre humain. Dès l'Antiquité, le pardon est associé à la clémence divine et à la rédemption. Alors dans le christianisme, le pardon est au cœur du message de Jésus. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il est même une condition pour obtenir le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous dit-on. Dans le judaïsme, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, est un moment de purification spirituelle où chacun doit demander pardon et accorder le sien aux autres. Et dans l'islam, Allah est décrit comme le très miséricordieux et le croyant est encouragé à pardonner car le pardon est un signe de grandeur. Dans la perspective bouddhiste, le pardon est vu comme un outil de libération intérieure. Garder rancune, c'est s'attacher à la souffrance et à un karma négatif. Dans l'hindouisme, le pardon est étroitement lié au concept de karma. Contrairement aux religions monothéistes, il est souvent présenté comme un acte moral ou spirituel. Ici, il est perçu comme une loi cosmique. Si nous entretenons de la colère et de la rancune, nous accumulons un karma négatif qui influencera nos vies futures. En revanche, en pardonnant sincèrement, nous épurons ce karma et avançons sur le chemin de la libération spirituelle, le fameux moksha. Dans le Bhagavad Gita, un des textes qui est fondamentaux à l'hindouisme, il est dit que celui qui est libre de haine et de rancune, qui pardonne et qui fait preuve d'humilité, celui-là atteint la paix et l'illumination. Ainsi, pardonner n'est pas un simple acte altruiste, c'est un moyen de se libérer des cycles de souffrance et de renaissance. Le shintoïsme, une religion traditionnelle du Japon, là le pardon prend une dimension plus rituelle. Il n'est pas nécessairement vu comme un échange entre deux personnes, mais plutôt comme une purification de l'âme face aux impuretés du monde. Les Japonais pratiquent des rituels de purification, misogi, dans l'eau ou dans des sanctuaires pour nettoyer toutes ces mauvaises énergies. Lors de conflits, des cérémonies symboliques peuvent être organisées pour marquer un nouveau départ, sans forcément exiger des excuses ou des justifications. Dans cette perspective, le pardon est un état d'harmonie à rétablir plutôt qu'un acte moral imposé. Et puis, on a chez les peuples autochtones une connexion spirituelle, une vision plus spirituelle et plus naturelle du pardon. Donc, dans de nombreuses nations autochtones d'Amérique, le pardon, c'est un processus spirituel qui concerne pas uniquement les humains, mais les ancêtres, les esprits et la terre elle-même. Donc les Lakota ont une tradition de prière de pardon où l'on demande à être libéré de ses propres rancunes pour pouvoir avancer en harmonie avec l'univers. Et certains utilisent souvent des cercles de parole comme outil de réconciliation. Accompagné du tambour sacré. Chaque personne exprime ses émotions sans être interrompue et le pardon peut naître naturellement de l'écoute et du respect mutuel. Dans ces cultures, pardonner, c'est rétablir l'harmonie avec soi-même, avec les autres et avec le monde spirituel. Alors finalement, pardonner n'a pas qu'une seule définition. Comme on le voyait tout à l'heure, ça peut être une philosophie, une guérison personnelle, un acte de réconciliation sociale ou même un rituel. Alors selon vous, quelle approche du pardon résonne le plus avec votre propre expérience? Pardonner ne signifie pas oublier ni excuser, mais c'est un moyen de se libérer du poids du passé. Le pardon, souvent perçu à travers un prisme religieux, possède aussi une profonde dimension psychologique et sociale qui déplace bien les croyances spirituelles. Pourquoi pardonner? Que se passe-t-il en nous lorsque nous accordons ou recevons le pardon? Dans une approche, on va dire, plus laïque, le pardon, c'est un acte de libération émotionnelle et mentale. Il favorise le bien-être individuel, mais aussi collectif. Nous avons tendance à être finalement notre propre juge le plus sévère. Donc là, on va parler du pardon envers soi-même, qui est un acte essentiel pour avancer. La culpabilité, les regrets, l'autocritique excessive peuvent nous enfermer dans un cercle de souffrance. Alors se pardonner à soi, c'est accepter ses erreurs et se donner le droit de grandir. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à nous pardonner? Le pardon envers soi-même, c'est souvent plus difficile que celui envers les autres. Est-ce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette difficulté? Il y a déjà le perfectionnisme, nous avons une image idéale de nous-mêmes et nos erreurs nous paraissent impardonnables. Il y a également une culpabilité qui peut être excessive. Nous avons l'impression que notre faute est trop lourde pour être excusée. Et nous redoutons également la peur des conséquences. C'est-à-dire nous redoutons que nous pardonner peut nous faire perdre notre responsabilité face à nos actes. Alors se pardonner, ça ne signifie pas que je vais minimiser mes erreurs, mais apprendre de ces expériences pour évoluer. Les études en psychologie montrent que l'autocompassion est essentielle pour une bonne santé mentale. Évidemment, ça aide à se libérer d'un poids émotionnel et ça améliore notre bien-être général en réduisant le stress et l'anxiété. On a également une meilleure estime de soi. Le pardon permet de se voir avec plus de bienveillance. Et ça améliore également les relations avec soi-même et les autres. Une personne qui s'accepte est plus ouverte forcément aux autres. Alors comment est-ce que je peux me pardonner ? Il y a quelques étapes clés qu'on peut suivre, c'est reconnaître ses erreurs sans les nier ou les justifier. Comprendre l'origine de ses actes, pourquoi avons-nous agi ainsi ? Apprendre de ses erreurs en trois, transformer la faute en une leçon de vie. Et pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire parler à soi-même comme on parlerait à un ami en difficulté. Et puis passer à l'action. Parfois, demander pardon aux autres peut nous aider à nous pardonner nous-mêmes. N'oubliez pas que se pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est apprendre à avancer avec sérénité. Alors une fois qu'on s'est pardonné soi-même, on peut aussi pardonner envers les autres. Et là, c'est un outil puissant pour la paix intérieure. Lorsqu'on est blessé par autrui, le ressentiment, la colère peuvent nous envahir. Pardonner ne signifie pas excuser ou accepter l'injustice, mais c'est choisir de ne plus être prisonnier quelque part de cette souffrance. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile de pardonner aux autres ? Ben déjà, il y a une douleur émotionnelle. Plus l'offense est profonde, plus il est difficile de tourner la page. Et puis, on a souvent peur que l'autre recommence. C'est-à-dire, on associe souvent le pardon à une forme de faiblesse et de soumission, ce qui est totalement faux. Et puis, on peut également ressentir un besoin de justice. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que pardonner fait que la faute reste impunie quelque part. Alors là, quels sont les bienfaits de ce pardon envers les autres ? Donc là, on a les neurosciences et la psychologie positive qui ont démontré qu'il y a un tas d'effets bénéfiques, moins de stress et d'émotions négatives, ça réduit l'anxiété et les ruminations mentales. Ça aide à passer à autre chose. Ça améliore également la santé physique. Il y a des études qui montrent que pardonner diminue la tension artérielle et renforce le système immunitaire. Crée également une plus grande résilience. Les personnes qui pardonnent ont une meilleure capacité à surmonter les épreuves. Ce qu'il faut se dire, c'est que pardonner, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Alors là encore, il y a tout un process qu'on peut suivre. Il s'agit de bien évidemment reconnaître la blessure. J'accepte la douleur sans chercher à la nier. J'exprime mes émotions, je peux parler, je peux les écrire ou même consulter un thérapeute. Ça permet d'évacuer cette colère. Je prends du recul, j'essaie de comprendre pourquoi l'autre a agi ainsi. Ce qui ne justifie en rien l'acte, mais ça permet de comprendre, c'est une première étape. Et je peux décider consciemment de pardonner. Le pardon est un choix personnel et c'est pas une obligation. Et puis l'idée, c'est aussi de relâcher le passé, c'est-à-dire que de laisser la rancune derrière soi pour avancer. Le pardon ne veut pas dire renouer avec la personne ou oublier l'offense, mais simplement de ne plus lui donner du pouvoir sur notre bien-être à nous. Alors le docteur Robert Enright, qui est spécialiste du pardon, a mené plusieurs études qui démontrent que pardonner diminue l'anxiété, la dépression et le stress post-traumatique. Les personnes qui sont capables de pardonner affichent souvent une réduction du stress, des pensées négatives, un meilleur sommeil et une capacité accrue à gérer leurs émotions. Au contraire, le ressentiment, lui, est associé à une augmentation du cortisol, cette fameuse hormone du stress, qui peut provoquer des troubles du sommeil, de l'irritabilité et une fatigue chronique. Les bienfaits du pardon ne s'arrêtent pas au mental. Il y a des chercheurs de l'université de Stanford qui ont découvert qu'ils pouvaient également réduire la tension artérielle et améliorer la santé cardiovasculaire. Quand nous gardons de la rancune, notre corps est en état de stress prolongé. Augmentation du rythme cardiaque, tension musculaire, production excessive d'adrénaline, etc. Ce qui favorise des maladies comme l'hypertension ou les troubles digestifs. Ainsi, pardonner n'est pas seulement un acte émotionnel, c'est aussi un geste pour notre bien-être physique. Se poser la question, est-ce qu'il est possible de tout pardonner ? Qu'en est-il des blessures qui sont les plus profondes ? Peut-on pardonner une trahison, une agression, un crime ? Il y a bien sûr des limites au pardon. Il y a des situations où le pardon semble des fois impossible, où la douleur est trop grande. Pourtant, des études montrent que même dans des cas extrêmes, pardonner peut être un acte de libération personnelle. Le pardon, comme je disais tout à l'heure, n'efface pas la faute, mais libère la victime du poids de la haine. Donc là, on peut penser à des gens comme Nelson Mandela, 27 ans de prison, ou Eva Kaur, qui est rescapée d'Auschwitz. Donc ces témoignages prouve que le pardon, c'est pas un acte de faiblesse, mais c'est vraiment un pouvoir qui est capable de transformer une vie entière et d'aider à vraiment tourner la page. Et puis parfois, le plus difficile, c'est pas de pardonner aux autres, mais c'est de pardonner à soi-même. Hein, nous accrochons parfois à la culpabilité, aux erreurs du passé. Pourtant, pour avancer, on a besoin de ce pardon intérieur. En conclusion, le pardon est-il un acte révolutionnaire ? Le pardon est bien plus qu'un simple concept moral, il a une force qui libère, qui transforme et qui même guérit. Or peut-être que nous n'avons pas tout pardonné immédiatement, mais en choisissant de laisser partir un peu de notre rancune, nous nous ouvrons à une vie plus apaisée et plus lumineuse. Car se pardonner, c'est accepter et avancer. Pardonner aux autres, c'est aussi choisir de ne pas être quelque part esclave du passé. Le pardon dans la société permet de reconstruire sur des bases plus saines. Ça signifie pas que je vais oublier ou que j'accepte l'inacceptable, mais simplement que je refuse que cette douleur dicte mon avenir. Un des penseurs comme Sénèque et Marc Aurèle prônaient le pardon comme un acte de sagesse. Celui qui pardonne se libère de l'emprise des émotions négatives. Et plus tard, Freud et Jung ont étudié comment les blessures du passé influencent notre inconscient. Ils ont montré que la rancune et le refus de pardonner entraînent un stress qui affecte notre santé. Alors si vous ressentez du ressentiment envers quelqu'un, posez-vous alors cette question. Ce pardon, est-ce pour l'autre ou pour moi-même ? Et sur cette grande question que je vous propose une première pause musicale avec Johnny Cash. Today to see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could stop
find a way.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
De retour sur Radio G Angers, sur Un autre regard, votre émission Paranormal Mystère. Le pardon, on a vu tout à l'heure, est une force puissante, capable de nous libérer des chaînes du passé et de transformer nos vies. Mais il existe aussi des mystères qui, eux, ne demandent ni pardon, ni rédemption. Des ombres qui surgissent là où on ne les attend pas. Des figures énigmatiques qui semblent tout savoir, mais ne laissent derrière elles que des questions sans réponse. Les Men in Black. Vous en avez sûrement entendu parler à travers le prisme du cinéma avec Will Smith, mais saviez-vous que ces mystérieux hommes en costume noir hantent les témoignages de nombreux ufologues et témoins d'ovnis? Qui sont-ils vraiment? Agents du gouvernement? Êtres venus d'ailleurs? Ou simples illusions nées dans la paranoïa collective? Coïncidence ou menace réelle? Ouvrons ensemble le dossier des Men in Black. Ces gardiens du secret qui semblent tout faire pour nous empêcher de regarder trop près la vérité. Alors les Men in Black, MIB, sont une énigme fascinante dans le monde des phénomènes paranormaux ufologiques. Ils ont été introduits dans les récits d'ufologues et témoins d'observations d'OVNI dans les années 1950, mais ont également acquis une place de choix dans la culture populaire grâce à des films, à des bandes dessinées ou à des séries comme X-Files. Pourtant, leur origine, leur nature, leur rôle dans l'histoire des phénomènes inexpliqués restent entourés de mystères. L'émergence de ces fameux hommes en noir, Men in Black, sont intimement liés à l'essor des témoignages d'observations d'OVNI dans les années 50, à une époque où le phénomène était à son apogée. Selon certains ufologues, ces hommes en noir sont des agents chargés de maintenir le secret sur les apparitions d'OVNI et d'empêcher la diffusion de ces informations au grand public. L'un des premiers cas notables a lieu en 1953, lorsqu'Albert Bender, un ufologue passionné, a rapporté avoir été visité par trois hommes vêtus de noir. Ce phénomène a rapidement attiré l'attention des ufologues et les histoires de Men in Black se sont multipliées. Alors parlons un petit peu des caractéristiques de ces Men in Black. Donc les Men in Black partagent un certain nombre de caractéristiques distinctives qui permettent de les identifier dans les témoignages. Tout d'abord, une apparence physique étrange. Ces fameux hommes en noir, Men in Black, sont généralement décrits comme étant impeccablement habillés de costumes noirs, de cravates et de chapeaux. Leur tenue est souvent anachronique, malgré l'époque dans laquelle ils apparaissent. Leurs vêtements semblent démodés ou mal adaptés au contexte. Les témoins notent également leur comportement figé et leurs traits souvent déshumanisés. Parfois, ils sont décrits avec une peau pâle ou une voix légèrement métallique, créant une sensation de malaise. On rapporte également un comportement étrange et mécanique. Ce qui frappe dans certains témoignages, c'est leur manière de se comporter. Ces Men in Black ne semblent pas comprendre les codes sociaux habituels. Leur démarche est souvent maladroite et leur conversation est caractérisée par des silences gênants et des questions qui sont parfois dénuées de sens. Ils semblent parfois plus robotisés que humains. Comme si, quelque part, ils suivaient un script. Et leurs gestes sont décrits comme dénués d'émotion, rendant leur interaction encore plus étrange et perturbante. Il y a également des véhicules anachroniques. Certains cas de Men in Black sont souvent vus arrivant dans des voitures noires, des modèles anciens, usés et parfois dans un état qui défie la logique pour une agence gouvernementale. Alors ça ajoute une dimension étrange à leur présence. Certains témoins mentionnent que ces véhicules n'ont pas de plaque d'immatriculation ou portent des plaques totalement inconnues, renforçant l'idée qu'ils viennent d'une autre époque, ou peut-être d'une autre réalité. Le dernier point, c'est que ces Men in Black ont une réputation d'intimider les témoins, parfois par des menaces subtiles ou directes. Dans certains cas, les témoins rapportent que leur mémoire a été altérée de manière inexplicable, après avoir été confrontés à ces mystérieux visiteurs. Les Men in Black leur ordonnent de ne pas parler de ce qu'ils ont vu, ou ils les préviennent qu'ils risquent de subir des représailles. Alors, les rencontres avec les Men in Black ont été documentées tout au long du XXe siècle, souvent après ces accidents d'observation d'OVNI. Alors, ces visites mystérieuses et intimidantes ajoutent une dimension, on va dire, supplémentaire au phénomène OVNI. Alors, voici quelques cas supplémentaires de rencontres notoires avec ces Men in Black. Donc, l'un des premiers cas documentés de rencontres se déroule en 1947 à Tacoma, dans l'État de Washington. Et là, c'est le cas d'Harold Dahl. Donc, il est témoin d'un incident d'OVNI et il aurait rapporté une rencontre avec des Men in Black après avoir observé un objet volant non identifié. Après l'observation, Dahl affirme que trois hommes vêtus entièrement de noir sont venus le rencontrer, l'avertissant de ne pas parler de ce qu'il avait vu sous peine de graves conséquences. C'est un incident qui est souvent cité comme un des déclencheurs de cette fameuse légende des Men in Black. Le cas Barker, donc c'est un ufologue et un écrivain qui est connu pour ses travaux sur les phénomènes OVNI. Donc lui aussi, il a une rencontre avec les fameux Men in Black après avoir publié son livre « They Know Too Much About Flying Saucers ». Donc ils en savent trop finalement sur les soucoupes. Un livre de 1956 dans lequel Barker a rapporté qu'il avait été confronté à ses visiteurs vêtus de noir, qui lui ont intimé l'ordre de ne pas poursuivre ses recherches. Barker, qui avait documenté des témoignages d'observations d'OVNI et de rencontres avec des extraterrestres, a décrit ses visiteurs comme des individus froids et mécaniques, sans aucune forme d'empathie. Cette rencontre a renforcé sa conviction que les Men in Black étaient là pour réprimer toute discussion publique sur les OVNI. Et son livre a été l'un des premiers à populariser l'idée des Men in Black dans le milieu ufologique. 1966, on passe à l'affaire de la famille des Ramberger, donc l'un des accidents les plus célèbres du coup a lieu en 1966 à Parksburg, en Virginie occidentale. Andrew Colt, qui est un prétendu extraterrestre, aurait rencontré Woodrow Derenbanger alors qu'il conduit sur une route isolée. Après cette rencontre, la famille Derenbanger aurait été visitée par des hommes vêtus de noir qui se sont montrés très insistants et leur ont ordonné de cesser de parler de l'incident avec les médias et les autorités. Les descriptions des Men in Black par la famille Derenbanger a été similaire à celle des autres témoins, individus étrangement habillés et comportant des traits de caractère déshumanisés. Et les pressions psychologiques qu'ils ont subies auraient perturbé la famille Derenbanger pendant plusieurs années. 1967, on a le cas de John Keel. Et là, on a la création du vrai mythe des Men in Black modernes. Alors, John Keel, c'est un célèbre journaliste, écrivain et enquêteur sur les phénomènes OVNI. Lui s'intéressait surtout par rapport à l'affaire du Mothman, donc à Point Pleasant. Donc c'est le film La prophétie des ombres avec Richard Gere et le livre qu'il a écrit donc raconte comment il est tombé justement dans le paranormal. Donc lui, il a également joué un rôle majeur dans la diffusion mythologique des Men in Black. Parce qu'il aurait du coup, alors qu'il enquêtait sur des événements mystérieux liés à l'observation d'OVNI, qu'il lui-même a fait des expériences de plusieurs rencontres avec ces individus ressemblant à des Men in Black. Il a souvent décrit ses rencontres dans The Mothman Prophecies, donc la prophétie des ombres, qui est sortie en 1975. Il a décrit des visites d'hommes en noir qui l'ont menacé et harcelé alors qu'il enquêtait sur des événements à Point Pleasant en Virginie occidentale, notamment autour, comme je disais tout à l'heure, de l'apparition du Mothman. Selon Keel, ces individus semblaient posséder une connaissance surnaturelle des événements et leur comportement et apparition étaient aussi bizarres que leurs intentions. On a un autre cas, du coup, de Men in Black en 1980 avec Richard Doty, qui est un ancien agent de la base militaire de Kirtland. Lui, il a affirmé dans plusieurs interviews que des Men in Black ont joué un rôle clé dans ses propres investigations sur les ovnis. Il a indiqué qu'il aurait été impliqué dans des activités liées à la désinformation gouvernementale sur les ovnis dans les années 80 et qu'il avait rencontré des individus qui agissaient en tant que Men in Black. Alors bien que certains considèrent Doty comme une source fiable, il y a aussi quand même une controverse sur la véracité de ses témoignages. Certains affirment qu'il a exagéré ou inventé ses histoires à des fins personnelles. On a aussi l'affaire Paul Benewitz, donc toujours dans les années 80. Donc lui, il est ingénieur en électronique et ufologue. Donc il a commencé du coup à observer au-dessus de la fameuse base militaire de Kirtland, au Nouveau-Mexique. Et c'est là où il a commencé à enregistrer des preuves de ce qu'il pensait être des ovnis. Mais ses recherches ont vite été perturbées par des visites de Men in Black. Que sont-ils finalement vraiment? Quelles sont les théories sur l'identité de ces Men in Black? L'un des aspects les plus intrigants, en tout cas, de ce phénomène est qu'il a donné quand même naissance à de multiples théories, alors qui sont souvent contradictoires et qui concernent leur origine et leur nature. La première théorie, l'une des théories qui est dominante, c'est que les Men in Black seraient des agents gouvernementaux. Donc cette théorie suggère qu'ils sont des agents d'une organisation gouvernementale secrète, probablement liés à l'armée ou à un service de renseignement, et ils sont chargés de maintenir le secret autour des observations d'OVNI et des phénomènes extraterrestres. Ces agents auraient pour mission de faire taire les témoins, de détruire les preuves et de contenir toute information qui pourrait mettre en danger l'ordre établi. Selon certains ufologues, cette organisation serait en lien avec le gouvernement des États-Unis ou de d'autres grandes puissances. Et ils auraient accès à des informations classifiées sur les extraterrestres et les ovnis. Deuxième théorie, les Men in Black seraient des extraterrestres. Une autre théorie propose que ces fameux Men in Black, qui n'ont pas l'air tout à fait humains, seraient plutôt des extraterrestres déguisés en humains. Ils seraient là pour empêcher les témoins d'OVNI de partager ce qu'ils ont vu et de garder secrètes leurs véritables intentions. Ce concept, il est alimenté par des descriptions de leur comportement déshumanisé, de leur attitude étrange et de l'idée qu'ils semblent venir d'ailleurs, non seulement physiquement, mais également émotionnellement et psychologiquement. Troisième possibilité, les Men in Black seraient des genres d'entités interdimensionnelles. Alors certains chercheurs ont émis l'hypothèse que ces Men in Black ne sont ni des extraterrestres, ni des agents gouvernementaux, des entités interdimensionnelles ou paranormales. Selon cette version, les Men in Black seraient des manifestations d'autres réalités ou d'autres formes de conscience qui viennent interférer avec le monde matériel. Ils pourraient être des genres de voyageurs interdimensionnels, des créatures provenant d'une autre dimension ou des êtres issus d'une réalité alternative. Cette théorie repose sur le nombreux récits où les Men in Black semblaient avoir un rapport étrange à la temporalité et à l'espace, parfois utilisant certaines technologies qui semblaient inexplicables pour l'époque. Quatrième théorie, les Men in Black seraient des projections psychologiques ou des manifestations finalement d'une genre de paranoïa collective. Une autre théorie qui est plus psychologique, elle considère que les Men in Black sont une création, une projection des peurs et des paranoïas des témoins. Cette théorie suggère que les histoires de Men in Black seraient en réalité nées de l'inquiétude générale vis-à-vis des autorités et du phénomène extraterrestre. Alors selon cette interprétation, les témoins des ovnis sont pris dans un genre de tourbillon d'anxiété et auraient créé des images mentales de figures menaçantes, devenant ainsi des symboles de leur peur et de la répression gouvernementale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très présents dans la culture populaire. Ce sont devenus des personnages iconiques, notamment grâce au film de 1997 avec Will Smith et Tommy Lee Jones, où ils incarnent deux personnages, deux agents d'une organisation secrète qui gère et protège l'humanité des extraterrestres, tout en effaçant la mémoire des témoins. Alors ces films, bien qu'humoristiques et fantaisistes, s'inspirent largement de la légende des Men in Black, en leur apportant une dimension légère bien sûr et divertissante. Cependant, cette version cinématographique des Men in Black s'éloigne grandement des récits originaux, qui décrivent des agents inquiétants, menaçants, plutôt que des figures comiques et amicales. Alors les Men in Black, en tout cas, demeurent un mystère irrésolu dans l'univers ufologique. Mais qui sont-ils vraiment? Des agents d'une organisation secrète, des extraterrestres déguisés, des entités interdimensionnelles ou simplement une création psychologique? Leur motivation, en tout cas, et leurs origines restent floues. Et leur présence dans la culture populaire et dans les récits paranormaux continue de susciter de la fascination et même parfois de l'inquiétude. Ce phénomène souligne l'importance de la question du secret, du contrôle de l'information et des forces invisibles qui pourraient, selon certains, manipuler la réalité pour dissimuler la vérité sur l'existence d'extraterrestres. Quoi qu'il en soit, les Men in Black continuent de captiver l'imagination, rappelant à chacun la question fondamentale de la dissimulation et du contrôle de la vérité dans un monde où la réalité semble parfois plus étrange que la fiction. Pour clore cette exploration fascinante des Men in Black, je vous propose une petite pause musicale avec Jefferson Airplane et White Rabbit.
pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you, she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Retrouvez votre rendez-vous paranormal Un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G.
De retour sur Radio G, Angers, 101.5 FM en DAB+, en streaming sur radio-g.fr. Nous avons parlé des fameux Men in Black, ces mystérieux agents de l'ombre. Nous allons maintenant tourner notre regard vers un phénomène tout aussi énigmatique et intrigant, les expériences de mort imminente, EMI. Alors ces témoignages de personnes qui ont frôlé la mort, souvent accompagnés d'une vision d'un autre monde, d'une lumière intense ou d'une rencontre avec des êtres mystérieux, soulèvent des questions sur la frontière entre la vie et la mort, la conscience et ce qui se cache derrière cette expérience ultime. Comment ces récits se croisent-ils avec les phénomènes paranormaux? Est-ce que nous relèvent-ils de notre existence? Nous plongeons dans ce thème, dans ce mystère, dans la troisième partie de notre émission. Alors, les expériences de mort imminente sont aussi appelées en anglais NDE, pour Near Death Experience. Ce sont des phénomènes rapportés par des individus ayant été confrontés à la mort, souvent après un accident, un arrêt cardiaque ou une opération à risque. Ces expériences sont généralement caractérisées par des sensations et des perceptions qui semblent aller au-delà de la simple réalité physique et qui suggèrent des éléments surnaturels ou spirituels. De par leur nature, elles ont capté l'attention du grand public, aussi bien que des chercheurs, et provoquent un débat, ce qui se cache derrière ces phénomènes. Alors, les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, EMI, rapporte souvent plusieurs phénomènes similaires. On peut recouper les témoignages. Si chaque expérience est unique, des motifs communs sont quand même observés. Donc voici les éléments les plus fréquents de ces expériences. Cette sensation de flotter hors de son corps. De nombreux témoins décrivent un décrochage total de leur corps physique, une sensation de flotter au-dessus de celui-ci. Certains ont raconté avoir vu leur propre corps sous un angle totalement extérieur, observant les interventions médicales, les gestes des proches ou des inconnus présents au moment de l'incident. Donc cela donne une sensation d'irréalité, un moment suspendu dans le temps où la personne n'est plus liée à son corps physique. Deuxième point commun, le fameux tunnel lumineux. Alors, le passage à travers un tunnel sombre suivi de l'apparition d'une lumière éclatante est l'un des aspects les plus souvent rapportés. Cette lumière est parfois décrite comme chaleureuse, apaisante, voire divine. La lumière semble avoir un genre de pouvoir de purification et pousse souvent les témoins à se diriger vers elle. Troisième point commun, des rencontres avec des êtres spirituels ou des défunts. Il y a beaucoup d'individus qui disent avoir rencontré des proches décédés ou des figures spirituelles, parfois des anges ou des entités bienveillantes. Alors, ces êtres leur offrent des messages rassurants ou un aperçu de leur destinée. Ces rencontres renforcent souvent l'idée que la mort n'est qu'un passage et que des relations d'une forme spirituelle existent au-delà de leur vie physique. Une grande majorité également des personnes qui vivent une EMI rapportent une sensation de paix profonde, une sérénité totale, débarrassée de toute souffrance ou peur. Donc les témoins décrivent souvent cette expérience comme un moment d'amour inconditionnel, une révélation qui dépasse l'ego et la souffrance humaine. Certains évoquent même un sentiment de fusion avec l'univers ou une genre de force universelle. Plusieurs récits font état d'une rétrospective de vie où la personne revit certains événements importants, parfois dans un ordre inversé ou sous un autre angle. Donc d'autres rapports évoquent des aperçus du futur, des visions concernant la direction de leur vie ou des événements à venir. Et autre, enfin dernier point commun, un retour dans le corps et une décision de revenir. C'est-à-dire, la plupart des témoignages de EMI se terminent par un retour soudain et parfois brutal dans le corps physique, souvent avec une sensation de douleur intense ou de perte pour ce qui semblait être en fait un état de paix éternelle. Alors certains décrivent avoir reçu l'ordre de revenir, leur temps n'était pas encore venu. Alors ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que si beaucoup de témoignages racontent une EMI, donc NDE positive, il existe également des EMI négatives. Donc c'est un peu une autre facette finalement de cette expérience de mort imminente. Donc souvent, elles sont associées à des visions de lumière, de paix, de rencontres spirituelles, mais il existe quand même toute une catégorie d'expériences qui sont quand même bien plus sombres et perturbantes. C'est ce qu'on appelle les NDE ou EMI négatives. Donc ces expériences, bien que moins fréquentes, ont été rapportées par un certain nombre de témoins qui décrivent des événements effrayants. Des sensations de douleurs intenses, des rencontres avec des entités malveillantes ou des plongées dans un environnement d'une noirceur plutôt inquiétante. Ce phénomène a éveillé un intérêt particulier car il pose la question de la nature de la mort et de ce qui pourrait bien finalement nous attendre après cette vie. Et pourquoi certaines personnes vivraient une expérience radicalement différente de celle décrite par les autres. Alors, les NDE négatifs partagent plusieurs caractéristiques qui sont évidemment opposées à celles des NDE classiques. Donc là, les témoins parlent plutôt d'une descente vers l'obscurité, donc plutôt que de traverser ce fameux tunnel avec la lumière éclatante au bout qui vous attire, les témoins du NDE négatif rapportent fréquemment une descente dans un genre d'abîme ou une obscurité qui est quelquefois même totale. C'est une sensation qui est souvent décrite comme une chute interminable où l'individu se sent englouti dans un espace sans fin, sans repère, ce qui suscite une terreur profonde. L'absence de lumière et de chaleur crée une atmosphère décrite comme plutôt glaciale et déshumanisante, qui contraste effectivement avec la chaleur réconfortante qui est souvent rapportée dans les NDE positives. Le deuxième point, c'est une rencontre avec des entités qui ont l'air inquiétantes, voire malveillantes. Donc des personnes ayant vécu une NDE négative évoquent parfois des rencontres avec des créatures qui sont hostiles, des figures sombres ou des entités maléfiques. Alors, ces figures peuvent être perçues comme menaçantes, parfois même violentes, et la sensation de peur est omniprésente. Elles sont parfois souvent comparées à des démons, des ombres ou des forces maléfiques. Alors, contrairement effectivement aux visions d'êtres spirituels bienveillants que propose la EMI positive. Donc là, les NDE EMI négatives laissent une empreinte, on va dire, de terreur, de souffrance. Un autre aspect caractéristique de ces EMI négatives, est un sentiment profond de solitude et de désespoir, d'isolement. Les individus qui vivent ce type d'expérience parlent de l'impression d'être totalement coupés de tout ce qu'ils connaissaient, un vide total, où il n'y a ni amour, ni lumière, ni espoir. Ce phénomène est souvent décrit comme une sorte de prison spirituelle, une sensation de perte de soi, d'un abandon cruel et irréversible. Alors, tout comme les NDE positives, EMI négatives incluent parfois une rétrospective de la vie. Donc certaines personnes qui ont vécu ces NDE négatives racontent avoir revu leur vie, mais d'une manière, on va dire, bien plus sinistre. Un jugement très sévère, un défilé des mauvais choix finalement de vie ou des actions regrettables, associées à une immense honte et culpabilité. Alors ces jugements peuvent être perçus comme une rétribution de leurs erreurs, un processus sans fin qui accentue la souffrance et le désespoir. Autre point commun, la sensation de ne pas avoir terminé sa vie ou son voyage. Parfois, les personnes qui vivent une EMI négative ressentent qu'elles sont envoyées dans un endroit ou une situation, on va dire, punitif, et qu'ils n'ont pas terminé leur voyage, leur mission, leur apprentissage sur Terre. Ils sont dans un genre de purgatoire. Ce sentiment de... Alors, quelques exemples de NDE négatives. On a le cas d'Howard Storm. Alors, il est un professeur d'art et un auteur américain. Lui, il a vécu plusieurs NDE négatives particulièrement intenses. Donc, il a été hospitalisé pour une grave maladie. Il a été déclaré mort pendant plusieurs minutes. Au lieu de l'expérience du tunnel et de la lumière que beaucoup attendent, Storm s'est retrouvé dans un endroit sombre et sinistre où il a été attaqué par des êtres invisibles. Dans son récit, il décrit cette expérience comme une véritable descente aux enfers, un voyage où il a ressenti un intense désespoir et une vraie souffrance morale. Au moment où il pensait être définitivement perdu, il a entendu une voix lui ordonner de crier à Dieu pour qu'il le sauve, ce qui lui a provoqué un retournement dans l'expérience. Et puis on a le cas du chercheur en paranormal et auteur, John E. Tinney. Alors John Tinney, c'est un auteur et un enquêteur du paranormal qui est bien connu, on a vu dans plusieurs émissions. Il a partagé son expérience personnelle de NDE négatif dans plusieurs de ses écrits et plusieurs de ses conférences. Selon lui, cet événement a profondément marqué sa vision dans le, on va dire, du monde et de la mort, et ça a même influencé quelque part ses recherches dans le domaine du paranormal. Donc il raconte sa propre expérience de mort imminente. Il n'a pas vécu d'élévation spirituelle où la lumière brillante souvent associée au récit est positif. Au contraire, il a traversé une expérience qui s'est avérée particulièrement perturbante. Donc dans cet épisode, Tenney se souvient avoir eu l'impression de tomber dans une genre d'abîme, une sensation qui a duré bien plus longtemps qu'il ne l'avait anticipé. Cette chute ne l'a pas conduit vers un lieu de paix ou de lumière, mais vers un genre d'environnement où il s'est senti pris comme un genre de tourbillon d'obscurité. Il a décrit ce voyage comme étant douloureux et sans fin, sans aucune direction ou issue claire. Dans cet espace sombre et inquiétant, Tenney a rapporté avoir rencontré des entités qui semblaient hostiles, des créatures ou des présences qui n'étaient pas, bienveillants, comme on peut ressentir dans de nombreuses NDE positives, mais aussi plutôt des figures ambiguës, menaçantes et un peu malveillantes. Il n'a pas précisé la forme exacte de ces entités, mais il évoque une atmosphère chargée de pression et de violence psychologique. Ces entités semblaient présenter des forces qui luttaient pour l'absorber dans cet abîme. Alors, ce qui semble avoir marqué John E. Tinney dans ce récit, c'est la solitude et l'isolement absolu. Loin de se sentir réconforté par les certitudes d'une genre de lumière divine, à la fin du voyage, il a été enveloppé en fait d'une perspective qui est même plus nuancée sur les expériences de mort imminente. Il a expliqué qu'après cette expérience, il avait une compréhension différente de ce que pouvait être la mort. Contrairement aux récits traditionnels des EMI qui mettent en avant des rencontres rassurantes et des visions d'une lumière divine, la sienne, lui, semblait s'inscrire dans une dimension tout à fait plus complexe et moins définie. Son récit, en tout cas, est une source d'inspiration pour certains chercheurs et écrivains dans le domaine des phénomènes paranormaux qui s'intéressent à l'ambiguïté des expériences spirituelles. Et ça soulève également une question essentielle. L'expérience de la mort est-elle universelle ou est-elle façonnée par nos propres croyances, nos propres peurs et nos actions terrestres? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière, effectivement, ces expériences de mort imminente? Elles ont généré un grand nombre de théories qui expliquent un peu leur origine. Alors c'est vrai qu'on parle souvent la théorie la plus courante, c'est quand même effectivement qui est largement acceptée dans les milieux scientifiques, ceux qui osent en parler, c'est que ces expériences de mort imminente, EMI, seraient des phénomènes qui sont déclenchés par une altération chimique dans le cerveau. En situation avec le stress extrême, comme lors d'un arrêt cardiaque, le manque d'oxygène dans le cerveau pourrait provoquer des hallucinations visuelles, notamment cette fameuse vision en tunnel. Cette vision aussi des figures humaines ou des perceptions de flottement un peu hors de son corps. Donc des recherches ont mis en évidence que des substances comme l'endorphine, qui sont produites par le cerveau en cas de douleurs intenses, pourraient expliquer cette sensation de paix et d'euphorie qui peut accompagner souvent ces expériences. Il y a également une théorie psychologique, c'est-à-dire du point de vue psychologique, les expériences de mort imminente peuvent être interprétées comme une réponse de l'esprit humain face à la peur de la mort. Le cerveau, dans son effort de faire face à cet événement traumatisant, pourrait créer finalement une sorte de réalité, de rêve alternatif. Une version réconfortante qui permettrait de supporter la douleur et l'angoisse. Donc les visions de lumière et de paix, ainsi que les rencontres avec des êtres chers, peuvent être vues comme des mécanismes finalement de défense psychologique. Et puis du point de vue neurologique, les NDE négatifs pourraient être des projections des peurs ou des remords qui sont ancrés dans l'esprit, hein, comme on a dit tout à l'heure. Alors, si on se penche sur une théorie un peu plus, on va dire, spirituelle, les EMI sont souvent considérés comme des voyages dans l'au-delà qui offrent un aperçu finalement de la vie après la mort. Cette interprétation trouve un écho dans de nombreuses religions et de nombreuses philosophies qui perçoivent finalement la mort comme une transition vers une autre forme d'existence. Donc les rencontres avec des entités lumineuses ou spirituelles seraient finalement des guides ou des messagers, et l'expérience de l'unité avec l'univers symbolise un retour à une dimension divine. Donc certains chercheurs spirituels considèrent que les NDE négatifs, du coup, sont une forme de leçon karmique, hein, et que finalement, ça serait pour t'aider à reprendre le bon chemin, en quelque sorte. Alors voici quelques exemples de EMI. Donc on a le cas de Pam Reynolds, on est en 1991, et Pam est une patiente qui a subi une opération du cerveau très complexe. Elle a eu une expérience de mort imminente très documentée, donc pendant que son cœur et ses poumons étaient arrêtés, elle a vécu une EMI, dans lequel elle a décrit des détails précis sur ce qui se passait autour d'elle, y compris des conversations entre les médecins, des bruits qu'elle n'aurait pas pu entendre pendant l'intervention. Donc son témoignage a vraiment bouleversé de nombreux sceptiques, car il semblait totalement incompatible avec la possibilité qu'elle ait été consciente à ce moment-là. Et puis on a le cas aussi de Daniel Brinkley. Donc lui, il a été frappé par la foudre en 1975, et il a été déclaré mort pendant plus de 28 minutes. Donc lors de cette période, il a vécu une EMI intense où il a vu des paysages magnifiques, des êtres lumineux. Il a reçu également des visions de l'avenir qu'il a ensuite utilisées pour aider les autres. Donc après sa réanimation, il est devenu un auteur et un conférencier reconnu sur les NDE, donc Near Death Experience. On a aussi donc le cas du docteur George Ritchie. Donc lui, il est psychiatre militaire. Il a vécu une EMI en 1943 après une grave pneumonie. Son expérience a été l'une des premières à être largement documentée. Elle a été décrite dans son livre « Return from Tomorrow ». Donc Ritchie l'a rapporté des visions d'un monde spirituel où il a rencontré des êtres. Et puis on a également, alors ça c'était plus du côté américain, ils sont quand même plus ouverts que nous sur le sujet. On a également plusieurs témoignages d'expériences de mort imminente, EMI, qui proviennent de Français qui ont vécu ces événements bouleversants. Donc voici quelques exemples notables. Alors, on connaît effectivement Jean-Jacques Charbonnier, il est médecin anesthésiste réanimateur, il a recueilli plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu des EMI, et puis il est aussi l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, si vous voulez vous faire une idée un peu plus précise, hein, donc notamment les expériences de mort imminente, témoignages et réflexions d'un médecin. Donc Charbonnier, lui, il a partagé l'histoire d'un patient qui, après une opération, a vécu une EMI durant laquelle il a décrit une sensation de sortie de corps, de se retrouver dans ce fameux tunnel lumineux et d'être accueilli par des êtres bienveillants. Le patient n'a pas voulu revenir dans son corps, mais a été obligé de le faire. Donc ce genre de témoignage fait souvent partie des récits de EMI où la personne a l'impression d'être rappelée à revenir à la vie. Donc Charbonnier, lui, met en lumière l'idée que cette expérience sont une preuve pour lui de la continuité de l'existence après la mort. Et un sujet qu'il développe maintenant dans ses conférences, dans ses écrits et dans ses ateliers. Le docteur, lui, Yves Delozier, c'est un autre médecin français qui a étudié les EMI. Il a mené, lui, des recherches sur les expériences de mort imminente. Il a rassemblé également beaucoup de témoignages. Donc, il a, dans son ouvrage Voyage au cœur de la mort, il rapporte l'histoire d'un patient qui, après une chirurgie cardiaque, a vécu une expérience où il se voyait flotter au-dessus de son corps, observant les médecins, essayant de le réanimer. Il décrit ensuite une rencontre avec une lumière très intense et un sentiment de paix profonde. Donc, ce témoignage, c'est vraiment ce qui a contribué à ses recherches sur l'effet apaisant des EMI et le lien avec la confiance après la mort. Donc, Les récidémies, en tout cas, ont des répercussions profondes sur les compréhensions de la vie après la mort, en particulier dans les domaines spirituels et paranormaux. Les visions du monde de l'au-delà, des rencontres avec les défunts et la perception de la lumière comme un symbole de passage ont conduit à une redéfinition finalement des croyances populaires. Pour beaucoup, les EMI apportent une preuve indirecte de l'existence d'une vie après la mort et d'une conscience qui persiste après la fin de la vie physique. Donc les expériences de mort imminente continuent de poser des questions profondes sur la nature, en tout cas de la conscience, de la vie et de la mort. Qu'elles soient interprétées comme des hallucinations cérébrales, des mécanismes psychologiques de défense ou des révélations spirituelles, en tout cas, elles témoignent de l'importance de ce moment charnière qui est la confrontation avec la mort. De plus en plus d'études et de témoignages nourrissent le grand débat sur ce phénomène mystérieux, qui semble traverser en tout cas toutes les cultures, toutes les croyances et toutes les époques. Un véritable pont entre la vie et l'au-delà. Alors pour conclure cette émission spéciale sur les pouvoirs du pardon, les Men in Black et les expériences de mort imminente, nous avons traversé ensemble des thèmes profonds et fascinants, explorant des dimensions spirituelles et mystiques de l'existence humaine. Nous avons vu comment le pardon, qu'il soit dirigé vers soi-même ou envers les autres, peut être un véritable levier de guérison, permettant non seulement de se libérer du poids du passé, mais aussi d'accéder à une genre de paix intérieure durable. Le pardon, une pratique universelle présente dans toutes les grandes religions, semble être une clé vers la transformation personnelle et spirituelle. Il peut nous aider à ouvrir un espace où l'amour, la lumière et la réconciliation peuvent régner. Nous avons ensuite plongé dans l'univers mystérieux des Men in Black, ces figures énigmatiques qui, selon certains témoins, jouent un rôle dans la dissimulation des phénomènes inexpliqués, notamment liés aux ovnis. Cette rencontre nous rappelle que parfois, ce qui semble évident à certains est maintenu dans l'ombre et qu'il existe un monde invisible que nous ne comprenons pas toujours. Ensuite, nous avons exploré les expériences de mort imminente EMI qui ont profondément bouleversé ceux qui les ont vécues. Ces témoignages, parfois étranges et parfois bouleversants, nous rappellent que la frontière entre la vie et la mort est peut-être plus floue que nous le pensons. Ces expériences soulèvent des questions existentielles sur notre nature, notre âme et la possibilité d'une vie après la vie. En somme, cette émission nous a invités à réfléchir à la nature de notre existence, à notre place dans l'univers et aux liens invisibles qui unissent tous les êtres humains. Elle nous a rappelé l'importance de vivre pleinement, d'accueillir les mystères de la vie et de rester ouvert aux merveilles qui peuvent surgir de l'invisible. Je vous remercie de votre écoute attentive et de votre ouverture d'esprit. Pour notre prochaine émission, nous questionnerons les phénomènes de poltergeist. Alors ces phénomènes de hantise où des objets sont déplacés ou des bruits inexplicables se produisent, nous aiderons à nous interroger sur la frontière entre les phénomènes surnaturels et les troubles psychologiques. Nous parlerons de témoignages les plus intrigants. Ensuite, on parlera de la loi de l'attraction. Elle repose sur l'idée que nos pensées et nos émotions attirent des événements dans notre vie. Alors en nous concentrant sur des pensées positives et des désirs clairs, nous attirons ce que nous voulons, comme le succès, ou l'amour, ou l'amitié. Cette loi affirme en tout cas que notre état d'esprit façonne notre réalité et que nous avons le pouvoir de créer ce que nous vivons en émettant des vibrations alignées avec nos aspirations. Mais qu'en est-il vraiment ? Enfin, nous plongerons dans l'un des lieux les plus sombres de Los Angeles, l'hôtel Cecil. Un lieu marqué par la présence du tueur en série Richard Ramirez, des événements tragiques, comme la disparition inexpliquée d'Elisa Lam, et même des phénomènes paranormaux. Entre mystère et réalité, l'hôtel Cecil continue de hanter l'imaginaire collectif, oscillant entre curiosité, peur et étrangeté. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'univers fascinant d'un autre regard. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.
www.radio-g.fr